de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment ça va? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Bonne écoute!
Bonsoir, c'est auditeurs du Tiste du Monde Indien. Voici les nouvelles aujourd'hui. La préparation de l'évacuation des citoyens indonésiens de Wuhan est entrée dans la phase finale. Juillet 2020, le marché traditionnel de Jakarta est exempt des sacs en plastique. Voici le bulletin complet. La ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, vendredi dans l'après-midi à Jakarta, a déclaré que les préparatifs de l'évacuation des citoyens indonésiens de Wuhan, province de Hubei, République populaire de Chine, étaient entrés dans le processus final. Le président Joko Widodo a ordonné que les citoyens indonésiens de Wuhan soient immédiatement évacués. La ministre Retno a expliqué aux journalistes au ministère indonésien des Affaires étrangères qu'elle a rencontré l'ambassadeur de Chine en Indonésie, Xiao Qian, pour discuter du permis d'atterrissage de l'avion pour l'évacuation des citoyens indonésiens. Conformément aux instructions du président relatives à l'évacuation de nos citoyens de Wuhan dès que possible. Actuellement, les préparatifs d'évacuation des citoyens de Wuhan sont entrés dans la phase finale. Ce matin, j'ai rencontré l'ambassadeur de la Chine à Jakarta. Il avait transmis l'autorisation d'atterrissage et le mouvement de l'avion pour l'évacuation des citoyens indonésiens de la province de Hubei. Nous voudrions exprimer notre appréciation pour la coopération qui a été accordée par le gouvernement chinois. La ministre Retno Marsudi a déclaré que les avions qui seraient utilisés pour évacuer les citoyens indonésiens à Wuhan partiraient dans les 24 heures. Le processus de rassemblement des citoyens indonésiens dispersés dans les plusieurs endroits continue d'être mené selon les informations transmises. Le départ de l'avion avec l'équipe sera fait en moins de 24 heures. Les avions utilisés sont des avions gros porteurs, de sorte que tous les citoyens indonésiens qui souhaitent être évacués peuvent voler directement sans passer par le transit. Cet après-midi, j'ai eu des entretiens avec notre équipe préliminaire de l'ambassade d'Indonésie à Pékin, qui entre actuellement dans la province de Hubei. Des préparatifs sont en cours à plusieurs endroits dans la province de Hubei, en particulier à Wuhan. La préparation de l'acceptation des citoyens indonésiens dans le pays continue à être faite. Selon Retno, le processus de l'acceptation sera effectué conformément aux protocoles et procédures de santé applicables. Le processus d'évacuation des citoyens indonésiens de Wuhan sera rapporté au président Joko Widodo. La communauté de politique étrangère de l'Indonésie, FCPI, a tenu une discussion sur la diplomatie climatique à Jakarta et vise également à discuter si la déception de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, au mieux connu sous le nom de 25e COP à Madrid, se transformera en progrès à la 26e COP qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2020 à Glasgow, en Écosse. La discussion a présenté les intervenants du co-négociateur en chef de l'article 6 de l'accord de Paris, Mukti Handayani Suyoman, le directeur du développement de l'économie et de l'environnement du ministère des Affaires étrangères, Agusta Fiano Sofiane, l'économiste principal et partenaire de recherche à l'Institut mondial de recherche IRG, Indonésie, Sony Mumbulan, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie et Brunei Darussalam, Vincent Piquet. La discussion a été guidée par le Dr Dino Patijalal, le fondateur de la communauté de politique étrangère d'Indonésie. Le directeur Agusta Fiano est très optimiste quant au plan de l'Indonésie pour les objectifs des contributions déterminées au niveau national et déclaré que l'Indonésie était très vulnérable au changement climatique et s'est engagé dans l'accord de Paris.
For Indonesia, I think we are still committed with our commitment with
Pour l'Indonésie, je pense que nous nous sommes engagés à l'accord de Paris. Et c'est pourquoi l'objectif indonésien de contribution déterminée au niveau national est de 29% et 41%, il est soutenu par l'international, d'ici 2030. Pour l'Indonésie, nous avons déjà un indice et nous nous engageons. C'est ambitieux, mais nous devons établir des nombres. Pour l'Indonésie, nous nous engageons. L'Indonésie est une nation insulaire possédant la deuxième plus longue littoral du monde. Nous sommes vulnérables au changement climatique. S'il y a une augmentation du niveau de la mer, cela affectera les communautés côtières. Cela affectera les moyens de subsistance. C'est pourquoi nous nous engageons à lutter contre le changement climatique. Le 25e COP à Madrid a été beaucoup critiqué parce qu'il ne parvient pas à un accord sur l'article 6 du traité de Paris. Selon la Chambre de commerce internationale, CCI, l'article 6 de l'accord de Paris vise à promouvoir une approche intégrée, holistique et équilibrée qui aidera les gouvernements à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national, CDN, par une coopération internationale volontaire. Selon la Chambre du commerce international, CCI, dans le cadre de ce mécanisme, les pays à faible émission seront autorisés à vendre leurs excès qui dépassent les émissions pour l'important, avec une limite globale d'émissions de gaz à effet de serre, GES, garantissant leur réduction nette. L'offre et la demande d'émissions entraîneront une tarification mondiale du carbone. On espère que vers 6e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP, qui se tiendra à Glasgow cette année, remplacera le manque d'engagement manifesté par les participants à la 25e COP. L'Indonésie a beaucoup de potentiel d'investissement, entre autres le secteur financier. Cela a été révélé par l'ambassade britannique en Indonésie et au Timor-Leste, Owen Jenkins, lors d'une conférence de presse vendredi 31 janvier à l'ambassade britannique à Jakarta. Je pense que le secteur financier est important. Le président Jokowi a très clair déclaré que l'Indonésie voulait plus d'investissements étrangers, Londres est l'un des centres mondiaux de mobilisation de financement. Et je pense qu'il serait très gênant si nous ne parvenions pas à renforcer les relations dans ce domaine, y compris des clives. La véritable force de Londres dans le domaine de la finance islamique, qui est la plus grande endéance du monde islamique. L'ambassadeur Jenkins a ajouté que la Grande-Bretagne voulait également renforcer la coopération dans le secteur du tourisme parce que les citoyens britanniques étaient les plus gros contributeurs aux devises étrangères d'Indonésie dans le secteur du tourisme par rapport à la Corée du Sud et la Chine. Tous les marchés traditionnels de DKI Jakarta, gérés par la Compagnie Générale Régionale de Pasarjaya, appliqueront la politique de réception des sacs en plastique jetables à partir de juillet 2020. Le chef de l'Agence pour l'environnement à Jakarta, Andonowari, a déclaré que la réglementation s'applique à toutes les entreprises au marché public. Les gestionnaires du marché populaire sont également tenus de socialiser et d'annoncer à tous les acteurs commerciaux menant des activités commerciales dans le marché communautaire qu'ils gèrent en ce qui concerne cette politique. En outre, les entreprises du marché public obligent de ne pas fournir de sacs à provisions en plastique jetable. Le vendeur doit mettre en œuvre la procédure de socialisation pour l'utilisation des sacs à provisions écologiques pour ses consommateurs. Le vice-président Maruf Amin a bien accepté la volonté de la province des îles Bangka-Belitung en tant qu'hôte du 7e congrès des musulmans indonésiens qui se tiendra à la fin de février 2020, car cela est devenu une opportunité pour Bangka-Belitung pour promouvoir le tourisme halal. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur des îles Bangka-Belitung, Erzaldi Rosman Johan, à Pangkal Pinang. L'arrivée des ulémas de diverses régions d'Indonésie et de l'étranger pour assister au prochain congrès à Bangka-Belitung sera une bénédiction pour la région. Selon lui, pour faire sourcer la réunion des ulémas dans toute l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est, le gouvernement provincial des îles Bangka-Belitung a fait préparer un budget et une variété d'infrastructures pour soutenir ces activités. Auparavant, le vice-président Maruf Amin, qui était également président du Conseil central de Zulema indonésien, avec la direction centrale des MOI, ont rencontré le gouverneur Erzaldi Rosman au bâtiment des MOI à Jakarta. J'espère que les Zulema d'Asie du Sud-Est et même du monde pourront être présents à ce congrès 2020. Le dernier, la Grande-Bretagne offre sur le mont Misvan après d'un demi-siècle d'intégration avec ses voisins les plus proches et a mis fin à son adhésion avec le bloc de l'Union européenne. L'Angleterre a entamé un nouveau chapitre de sa longue histoire, juste à minuit à Bruxelles. La Grande-Bretagne est devenue le premier pays à quitter le bloc de l'Union européenne et à le diriger pour la première fois depuis 1973. Le Premier ministre britannique Boris Johnson soutient le Brexit depuis le vote référendaire en 2016 pour quitter le bloc de l'Union européenne, ce qui a suscité amertume et division. Il a promis de conduire le pays vers un avenir meilleur. C'est ce dit, c'était la nouvelle pour aujourd'hui. À demain.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de la région Bengkalis, la province Riau. Dans la région Bengkalis, en province Riau, l'apogée de la célébration du Nouvel An chinois 2571-2020 a été la célébration du sixième jour dans la ville Sungai Pakning, district Bukit Batu, région Bengkalis. La célébration a commencé par un rituel au temple Hokkien Kyong, accompagné par les tambours et autres instruments de musique joués par un certain nombre d'enfants d'origine chinoise. Une fois le rituel terminé, les participants au défilé ont ensuite défilé vers la ville Sungai Pakning, accompagné de pétards lancés par les participants le long de la route menant au lieu de la célébration. Lors du défilé, les participants ont apporté un certain nombre d'attributs, de drapeaux de différentes couleurs et formes. Les participants qui étaient possédés par l'esprit des dieux ont marché en étant accompagnés par le tambour. Il y avait des participants qui ont pris le palanquin Kyu qui contenait une statue d'un dieu. Ensuite, l'info de Bandung, Jawa West. Jeudi dernier, le maire de Bandung, Odette M. Daniel, a installé deux unités d'arbres solaires dans le parc du Carré Bandung, Jawa West. L'arbre solaire est une centrale solaire en forme d'arbre dont l'énergie électrique peut être utilisée pour allumer des lampes et charger des équipements électroniques sans électricité à partir de PTPLN, soit compagnie d'électricité d'État. L'installation de l'arbre solaire est une forme de préoccupation pour le gouvernement de la ville Bandung dans l'utilisation de l'énergie solaire, l'une des nouvelles énergies renouvelables respectueuses de l'environnement. L'arbre solaire au carré de la ville Bandung est un programme de responsabilité sociale
des entreprises de PTLN Industrie Persero en collaboration avec le Bureau du logement et du quartier résidentiel, des terres et de l'aménagement paysager de la ville Bandung. La dernière info est venue de la région Toraja Nord, Sulawesi Sud. Cette région compte 17 destinations de premier plan. Le chef du bureau de la culture et du tourisme de Toraja Nord, Harley Pariyatno, a déclaré jeudi dernier que Toraja Nord comptait 300 sites touristiques et 17 d'entre elles étaient en tourisme de qualité supérieure comme Ketek Kesu, Londa, Kalimbong Bori, Sadang Barana et Palawa. Particulièrement le plus visité par les touristes étrangers et nationaux est l'objet touristique de Ketek Kesu, qui est une zone de maisons traditionnelles de Tongkonan et le cimetière de pierre. En tant que forme de préoccupation pour les installations et les infrastructures nécessaires à la fin de l'emplacement, en plus de divers magasins de bibelots, les lieux de culte sont également préparés pour les musulmans. Cela a été fait dans le cadre des efforts visant à soutenir les programmes gouvernementaux dans la réalisation de programmes de tourisme halal, de sorte qu'à l'avenir, le nombre de visiteurs à Toraja Nord devrait être encore plus élevé. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er février. Le 1er février 1979, l'Ayatollah Khomeini est retourné en Iran. Après plus de 15 ans d'exil, le 1er février 1979, le leader chiite l'Ayatollah Khomeini est retourné en Iran. Khomeini est exilé en Irak en 1964, un an après qu'il a été emprisonné par le Shah d'Iran. En 1978, Khomeini a déménagé à Paris et a commencé à composer son mouvement révolutionnaire islamique dans la capitale française. En janvier 1979, le mouvement révolutionnaire conçu par Khomeini a réussi à évincer le Shah d'Iran. À l'arrivée en Iran, Khomeini a continué son mouvement révolutionnaire. Deux semaines plus tard, le premier ministre Shahpur Bakhtiar, étant pro-Shah, a démissionné en Khomeini, a nommé Mehdi Bazargan comme le nouveau premier ministre. Trois mois plus tard, 1er avril 1979, Khomeini a annoncé la création de la République islamique d'Iran. Dans le nouveau gouvernement de l'Iran, l'Ayatollah Khomeini a le rôle comme chef suprême et le chef spirituel de l'Iran. Le 1er février 2003, l'avion de la navette Columbia a explosé. Il est devenu la fin tragique de la mission de la navette spatiale Columbia. La navette spatiale Columbia des États-Unis a explosé dans l'air lors de l'atterrissage au centre spatial Kennedy en Floride, États-Unis. 7 astronautes sont morts. Les fonctionnaires de l'Agence spatiale nationale des États-Unis, NASA, a dit que l'accident a eu lieu lorsque l'avion qui a été fait en 1981 à une altitude de 60 000 pieds de terre à une vitesse de 20 000 km par heure. Avant d'exploser, l'avion venait de terminer sa 28e mission ayant décollé le 16 janvier 2003. Tout au long de son histoire, Columbia a effectué 28 vols. Le 1er février 2005, le roi Gyanendra Dunapel lance un coup d'État. Le roi Gyanendra a dissous le gouvernement, a déclaré une loi d'urgence et a fait le Népal isolé de la communauté internationale en rompant tous les liens de communication. Mais le roi Gyanendra a nié qu'il a fait un coup d'État. Il a déclaré qu'il a dissous le gouvernement du premier ministre Sher Bahadur Deba car il a échoué à tenir des élections et a mis fin à la rébellion maoïste qui a tué des milliers de personnes. L'action du roi Gyanendra a pris le pouvoir au Népal a été accueillie avec inquiétude dans le monde entier. Les Américains disent être très anxieux de voir le déclin de la démocratie au Népal. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Cintaku terenggut tak tersalah.
C'était la chanson intitulée « Tanpa Kekasihku » qui signifie « Sans mon amant » chantée par Agnes Monica. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. La suite, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici mon Indonésie et en titre, l'autorité des services financiers rend compte de l'avancement du programme financier durable. Le président du Conseil des commissaires de l'autorité des services financiers, OJK, Wimbo Santoso, a déclaré que le développement d'un programme financier durable en Indonésie avait atteint des objectifs. Le communiqué de presse de l'OJK du mercredi 29 janvier a indiqué que Wimbo avait remis le rapport lors de la conférence de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Boulogne, France, mardi, heure locale. Wimbo a rapporté le discours d'ouverture lors de la feuille de route Trihitakarana à la conférence de l'OCDE sur le financement privé pour le développement durable et a été l'orateur de clôture de la table ronde sur la collaboration entre les plateformes nationales organisée par le Partenariat pour l'investissement en développement durable. Wimbo a déclaré que le rapport d'étape mondiale du réseau bancaire durable, SBN, avait annoncé l'année dernière que l'Indonésie était dans la position des deux premiers pays du monde qui avaient atteint un stade avancé dans le développement et la réforme de la finance durable. Selon lui, cela a été réalisé en partie parce que toutes les banques commerciales, à l'exception de Banque Perkreditan Rakyat, soit la Banque du Crédit Rural, ont respecté la réglementation financière durable en soumettant leur plan d'action pour la mise en œuvre de principes financiers durables. Wimbo a assuré que cette disposition serait suivie par la Banque du Crédit Rural dans un an. Il a expliqué que le développement de la finance durable dans le secteur bancaire passait par l'augmentation du portefeuille pour financer des projets de durabilité tels que les bâtiments verts, l'écotourisme, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique et les projets d'infrastructures durables. La réalisation du portefeuille dans la catégorie des activités commerciales durables, en 2019, a atteint environ 763 000 milliards rupiah, soit 9% du financement total distribué. Une banque a émis des obligations mondiales de durabilité avec une durée de 5 ans, en taux de coupon de 3,95%, pour une valeur d'environ 500 millions de dollars américains. Selon Wimbo Santoso, ces chiffres indiquent une augmentation de la confiance du marché dans le financement durable de projets. Actuellement, l'autorité des services financiers met au point un système de financement mixte, un processus de financement impliquant le secteur privé et le secteur des services financiers comme l'une des solutions alternatives pour financer divers projets dans le cadre d'une économie respectueuse de l'environnement, mais convenant aux investisseurs privés, y compris en Indonésie. En tant que régulateur dans le secteur des services financiers, l'autorité des services financiers considère que le développement d'un système de financement mixte ou d'un financement mixte est très important, non seulement pour encourager le financement de projets de développement économique, mais aussi pour garantir que le développement prend en compte les aspects environnementaux. À cette fin, l'autorité des services financiers est prête à construire les écosystèmes nécessaires, à réformer la réglementation et à s'adapter aux conditions sur le terrain afin que le financement de ce programme puisse être accepté et attirer des investisseurs mondiaux. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Angie, dont le titre est Merawat Cinta, qui signifie traiter l'amour. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Ce soir, nous vous inviterons à profiter des délices de Naniura, de Tapanuli, au nord de Sumatra. Naniura est connue comme sushi du peuple de Sumatra Nord. Cette nourriture provient de Tapanuli, la région autour du lac Toba. Naniura est l'une des spécialités de Batak qui est célèbre pour ses poissons qui ne sont pas cuits, mais seulement assez sonnés. Dans la langue Batak, Naniura est un poisson acidifié. Mais même ainsi, le poisson peut être mangé, car la marinade acide peut éliminer l'odeur fétide du poisson cru. Dans les temps anciens, cette cuisine de Tapanuli était consacrée au roi, dont le roi Sisinga Mangaraja. Par conséquent, seules les cuisines royaux peuvent cuisiner Naniura. Mais avec le temps et en raison de son goût très unique, presque tous les Batak peuvent déjà le cuisiner. Même aujourd'hui, en raison de son épice distinctif, Andaliman, qui est une authentique épice de Batak, de nombreux touristes nationaux et étrangers recherchent cette cuisine indigène Tapanuli lorsqu'ils visitent plusieurs régions à Sumatra Nord. Le goût du poisson fait d'être Naniura est très amer sur la langue. Les épices sont épicées et chaudes sur les lèvres, surtout si Naniura est mangée avec quelques boissons gazeuses ou des boissons alcoolisées comme le vin de palme à base de jus. Vous vous sentirez très satisfait si Naniura est faite comme tambul, qui est une collation en buvant du vin. Le goût sucré du poisson ainsi que le goût épicé et le plaisir des épices ainsi que le goût amer de l'andaliman peuvent rendre le bout de la langue comme une piqûre. Naniura se trouve à plusieurs endroits dans Sumatra Nord, en particulier dans les sites touristiques au bord du lac Toba. Il y a même un restaurant qui permet aux visiteurs de voir comment le processus de fabrication de Naniura. Cuisiner Naniura est en effet un peu compliqué. Le poisson utilisé peut être n'importe quel poisson, comme le poisson rouge, le poisson mujair. Le poisson est mis dans le bain d'acide Junga pendant 4 à 5 heures, ajouté avec d'autres épices telles que le noyer cuit au four, l'ail, l'oignon, le poivre, le gingembre, le curcuma ajouté avec du piment. Pour être doux, le poisson doit être enveloppé. Le tamarin qui sert à faire du poisson cuit n'existe également qu'au nord de Sumatra. L'acide Junga ne peut pas être remplacé par aucun acide car il peut transformer le goût du poisson en amer. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Hanya air mata.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, vous venez d'écouter la chanson de Ari dont le titre est Mencintai Tuk Disakiti. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur la région du plateau Dieng qui met en place la billetterie électronique. La région du plateau Dieng a mis à jour le système de billetterie en utilisant un système de billetterie électronique. Les visiteurs n'ont pas à se soucier d'acheter les billets directement chez eux. L'application de ce billet électronique est valable pour la visite du complexe du temple Arjuna et du cratère Sikidang. Si à l'heure actuelle, la région du plateau Dieng a mis en place un ticket sous forme de code-barre, l'application de ce système de billetterie électronique pour faciliter la commande de billets pour entrer dans la zone touristique du plateau Dieng, n'importe où et à tout moment. Le gouvernement de la région Banjarnegara Java Central se prépare actuellement à mettre en place un système de billetterie électronique dans la zone touristique du plateau Dieng. Le régent de Banjarnegara, Budi Sarwono, a déclaré que l'application du système de billetterie électronique visait à améliorer les services aux touristes. Le gouvernement de la région Banjarnegara prévoit également d'embellir les installations et infrastructures existantes à Dieng pour accroître l'intérêt touristique. De plus, une aire de repos sera construite dans la zone de la ligne principale de Dieng. Bien entendu, les différents programmes étant mis en œuvre devraient permettre d'augmenter le nombre de visites touristiques à Dieng et d'avoir un bon impact sur la communauté locale. Le régent de Banjarnegara, Budi Sarwono, estime qu'avec le nombre croissant de touristes qui arrivent, ce sera mieux pour l'économie de ses citoyens. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Petir, créée par Sariwono. Cette chanson originale de Kroncong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort, il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français la foudre.
Kekasihku di
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est tout l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'écouter Voice of Indonesia. Restez toujours avec nous sur l'onde courte de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir.